Chapitre 49. Gustav Larsson, qui dirige le premier groupe d'intervention, s'est mis à couvert avec deux binômes de combat derrière le soubassement en béton d'une station de pompage. Il entend un bruit saccadé et voit l'hélicoptère perdre de l'altitude. Adam crie quelque chose et se lève.
« Reste allongé !»
lui lance Gustav. Adam a le temps de faire un pas en direction de la mer avant d'être terrassé par l'onde de choc. Son casque heurte durement le sol lorsqu'il bascule en arrière. Les flammes dévorent les arbres sur toute la zone. Des morceaux métalliques retombent avec fracas sur la marina, mais au début, Gustav n'entend qu'un bruissement, comme une petite brise dans les feuilles. Et quand il crie à tous de rester allongés, sa voix ne résonne qu'à l'intérieur de lui. Le panneau de commande de la station de pompage est en feu. Il regarde les flammes, conscient d'un faible crépitement, et soudain son ouïe revient. Il entend le cri désespéré d'Adam percer le tumulte. « Marcus ! Marcus !» Adam vient de perdre son frère, et sa voix se brise quand il se lève de nouveau. Avant que Gustav ait le temps de réagir, Adam vide le chargeur de son fusil d'assaut sur les bateaux de luxe remisés, puis il lâche son arme et la laisse pendre à la bretelle.
« Couche-toi, ils ont un sniper !» lui crie Gustav.
Adam arrache ses lunettes de protection et fixe le feu. Des bateaux se renversent et brûlent. Plusieurs petites explosions se produisent. Jamal quitte sa position, fait tomber Adam et le maintient au sol. Les mains tremblantes, Gustav parvient à sortir son talkie-walkie et appelle Janus Mikkelsen. Des débris de verre et des éclats de bois volent dans l'air. Ils ont perdu l'hélicoptère avec 4 hommes. Gustav pense aux étincelles produites quand la pale du rotor a heurté la grue. Comme un grand coup de baguette magique qui flamboyait dans la nuit. Il retient ses larmes en répétant le nom de ses collègues qui ont vraisemblablement péri dans l'accident. Les groupes 3 et 4 sont en route, mais vous devez intervenir immédiatement et arrêter ou neutraliser les terroristes, dit Janus.
Et Juna ? Demande Gustav. Qu'est-il arrivé à Juna, Lina ?
Aucune nouvelle depuis qu'il est arrivé sur les lieux, répond Janus. On va devoir supposer qu'il est mort.
Je n'arrive pas à déterminer s'ils ont pris des otages ou si...
Des pertes civiles sont acceptables, l'interrompt Janus. Les renforts sont en route, mais vous devez tout faire pour arrêter les terroristes, ici et maintenant, c'est un ordre. Gustav coupe la liaison radio, s'efforce de respirer calmement et regarde les hommes autour de lui. Jamal se mord la lèvre inférieure. August bâille, comme d'habitude, et Sonny a le regard enflammé d'un boxeur. Adam s'est mis à genoux. Il est en train d'introduire un nouveau chargeur dans son fusil. Son grand frère Marcus était mécanicien d'hélicoptère. C'est lui qui guidait la corde depuis l'appareil pour veiller à ce que tout le monde touche le sol.
« Écoutez-moi, » commence Gustav, et il déplie la poignée de son fusil d'assaut. « Nous avons l'ordre d'arrêter ou de neutraliser tous les terroristes. »«
Les renforts arrivent quand ?» demande Jamal.
« Ils sont en route, mais nous allons intervenir tout de suite, » répond Gustav. « Adam, toi tu restes ici. »
Adam se passe la main sur le visage, regarde Gustav et secoue la tête.
« Je viens avec vous, » dit-il d'une voix rauque. « Je vais bien. » « Je pense quand même qu'il vaut mieux que tu restes à l'abri. »« Vous avez besoin de moi, » s'entête Adam.
Alors tu seras en 4e position et moi en dernier, dit Gustav, et il sent de nouveau fourmiller le mauvais pressentiment.
Jamal, tu me remplaces aux commandes.
D'accord.
Ne prenez pas de risques. Balayez à 360 degrés. Vous connaissez tout ça par cœur. Allez, on y va.
Jamal pointe le doigt, se redresse à moitié et court tête baissée dans l'herbe en feu jusqu'au bateau où il leur fait signe de le suivre. Puis il continue dans l'étroit passage entre deux rangées de voiliers de luxe. Ils avancent dans un synchronisme parfait tout en cherchant à examiner le moindre recoin. Ils n'ont pas eu le temps d'étudier de cartes topographiques et la marina est difficile à appréhender. L'hélicoptère et les bateaux en feu se dressent derrière eux. Les flammes leur fournissent une certaine lumière, mais tout est en mouvement autour d'eux. Le feu fait scintiller les pièces de métal éparses et de grosses ombres semblent vibrer au-dessus des carcasses des bateaux avant de se dérober l'instant d'après. Quelque part devant eux se trouve un tireur embusqué. Il n'arrive pas à déterminer s'il peut les voir. Peut-être se détache-t-il très nettement sur le halo de l'incendie, peut-être se confond-il avec les bateaux et le sol noir. Gustave s'oblige à ne pas penser à ses collègues qui viennent de mourir. Il doit rester totalement concentré et méthodique. Le groupe se déplace à croupetons dans l'étroit couloir. Leur expérience leur permet d'inspecter tous les coins et de couvrir toutes les lignes de tir possibles. Gustave se retourne et examine rapidement la zone derrière eux. Le sol sous les bateaux est sec. Des débris se sont accrochés aux étais et aux béquilles. L'odeur de fumée s'intensifie. Les grandes flammes se reflètent sur les casques des hommes. Soudain, Jamal fait signe d'arrêter. Il se baisse un peu et pose la main gauche sur son avant-bras droit, signalant ainsi la présence d'un ennemi. Il n'est plus du tout sûr, mais il a eu l'impression d'apercevoir un visage du coin de l'œil. Son cœur bat à tout rompre. Avec précaution, il se met à genoux et regarde sous la coque. Peut-être n'a-t-il vu que le reflet de l'incendie sur un gouvernail blanc. Jamal pose son doigt sur la détente, avance doucement de quelques pas, cherche à voir au-delà de l'avant de la quille. Au milieu de la forêt d'étais et de cales, il voit le mur d'un hangar en tôle et un chariot élévateur jaune. Quelqu'un bouge tout près, sous le bateau suivant. Un chat noir s'échappe et le doigt de Jamal tressaille sur la détente. Des particules de suie incandescente pleuvent entre les bateaux. Gustave garde sa position à l'arrière et voit Jamal poursuivre droit devant. Il voudrait lui crier d'inspecter plutôt la zone à droite. Jamal regarde à gauche. Une bâche bleue est agitée par le vent et de l'eau tombe goutte à goutte par terre. Soudain, une paire d'yeux scintille près du bâtiment. Jamal tourne immédiatement son arme dans cette direction et voit le visage dans la lunette. Quelqu'un pousse un gémissement derrière lui. C'est Adam qui vient de trébucher sur une poutrelle saillante. Le canon de son fusil heurte une béquille métallique. Jamal ignore pourquoi son doigt a résisté à l'impulsion de presser la détente. Glacé, il comprend qu'il a failli tuer la vieille femme avec son ouvrage. Il s'appuie contre une coque blanche et laisse échapper un soupir de soulagement. Gustave se retourne et examine encore une fois l'air derrière eux. L'incendie gagne du terrain. Des pans entiers de bâches enflammées atterrissent dans l'eau avec de petits bruits secs. Une violente rafale entraîne les flammes qui embrasent aussitôt d'autres bateaux. Jamal leur fait signe de bouger et Gustave regarde devant lui, au-delà des deux binômes de combat, vers le parking. À gauche, il voit une épave de voiture rouillée dans les herbes folles. Des chardons et des taillis dépassent du capot. Adam chuchote pour lui-même. Retire le chargeur de son fusil, l'inspecte et le remet en place. Un homme en survêtement noir surgit de sa cachette derrière l'épave de voiture. Sonny réagit immédiatement et tire 6 coups. Le torse de l'homme est déchiqueté, le sang gicle, son bras gauche est arraché et reste accroché au tissu de survêtement, puis vient entourer son cou comme une écharpe quand son corps vrille dans la chute. Au même moment, Jamal s'effondre. Il s'affaisse sur le côté comme pour se reposer. Gustave ne comprend pas ce qui s'est passé. Sonny court à croupetons rejoindre Jamal quand le flash lumineux d'une arme les éblouit. La détonation est brève, mais assourdissante. La balle atteint Sonny en pleine figure et ressort dans la nuque. Son casque est arraché et son sang éclabousse Adam derrière lui. La déflagration résonne encore quand il bascule en arrière. Gustave se jette sur le sol et roule sous un immense voilier. L'odeur de terre poussiéreuse et d'herbes sèches remplit ses narines. Il rampe rapidement jusqu'à un plot en béton à l'avant du bateau et y pose son arme. Le corps de Sonny produit un faible sifflement. Gustave scrute à travers la lunette l'endroit où il lui a semblé voir la flamme du canon. Son œil voit de la terre grise, des petits bateaux, un conteneur à ordures. Tout est comme fait de plomb, badigeonné de suie. Le viseur court sur les buissons bas, sur un sac poubelle fermé, sur un pot de peinture vide. Adam s'est assis en tenant Sonny dans ses bras. Toute sa poitrine est maculée de sang. « Mon Dieu, Sonny !» gémit-il. Gustave, haletant, continue à fouiller les alentours de son viseur. Le vent fait trembler les taillis. Des particules de suie pleuvent doucement autour de lui. L'odeur de fumée est étouffante. Des bateaux en feu se renversent les uns sur les autres. Les bidons pleins d'eau qui sont suspendus à la bâche du bateau au-dessus de lui se mettent à osciller. Son cœur bat à tout rompre quand il découvre le canon du fusil qui pointe derrière une vieille palette chargée de tuiles. Le vent agite un buisson déplumé, juste derrière le tireur embusqué. Gustav essuie la sueur de ses sourcils pour mieux voir et ajuste ses lunettes de protection. C'est un excellent tireur, mais en cet instant, il sent qu'il tremble beaucoup trop. Il positionne doucement le viseur à l'endroit où il imagine que se montrera la tête du sniper la prochaine fois qu'il tirera.
« Ils sont tous morts ?» dit Adam dans le vide. « Je crois qu'ils sont tous morts. »
Le réticule de visée bouge et descend vers les tuiles. Gustav ne peut pas lui répondre. Il faut qu'il reste concentré. Adam et lui sont à découvert. Gustav sait que le sniper ne va pas tarder à tirer de nouveau. Quelque part, une femme crie. Un des bidons d'eau suspendu oscille devant le viseur. Le fusil du sniper bouge légèrement vers la gauche et une tête apparaît pendant quelques secondes avant de disparaître. Le canon descend, puis s'immobilise. La tête surgit de nouveau, l'œil plaqué contre la lunette pour repérer une nouvelle cible. Tout en douceur, Gustav déplace la mince croix du réticule vers le visage et presse la détente. Le G36 vient heurter son épaule et le tireur embusqué disparaît. Gustav scie plusieurs fois et tente de contrôler sa respiration. L'arme a disparu. Il a le temps de penser qu'il l'a ratée avant de voir des gouttes sombres tomber des branches du buisson derrière la cachette.